Bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Vassili II, grand-duc de Moscou, est marié à la belle Salomé Yurievna et nous sommes en 1526. Le grand-duc a 47 ans, le couple n'a pas d'enfant, que va donc devenir le royaume ? Alors il se dit que Salomé est sûrement stérile et que s'il avait une autre femme plus jeune, eh ben les choses s'arrangeraient certainement. Alors, il décide carrément d'enfermer sa femme dans un couvent. Elle dit qu'elle n'a quand même pas mérité ça, lui ne veut rien entendre et on l'enferme de force. Donc le voilà débarrassé de sa femme, vite, prenons-en une autre. Mais en fait, selon la règle de l'Église orthodoxe, Vassili ne doit pas se remarier tant que sa femme est encore vivante. Oui, mais ça ne s'applique pas aux têtes couronnées. Donc c'est ce que dit d'ailleurs le métropolite Daniel. Ce qu'on appelle un métropolite dans la religion orthodoxe, c'est un prélat, on peut dire, entre patriarche et évêque, comme situation. Par précaution, Vassili consulte le patriarche grec de Jérusalem. Il n'aurait peut-être pas dû, parce que celui-là, il fulmine. Et il lui dit, Vassili, si tu contractes un second mariage, tu auras un fils méchant. Tes états seront en proie à la terreur et aux larmes, des ruisseaux de sang vont couler, les têtes des grands tomberont, tes villes seront dévorées par la flamme. Quel programme, hein ? Eh bien, pensez à ce que je viens de dire là. Qui pourrait faire peur à Vassili ? Personne. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe au-delà de cet avis. D'ailleurs, il a déjà choisi. Normalement, il devrait convoquer toutes les jeunes filles à marier du pays et faire son choix parmi elles. Eh bien, ça n'a pas l'air donc de se passer comme ça parce qu'il décide d'épouser Hélène Glinski, dont le père est lituanien, même pas russe, et qui plus est catholique. Quelle horreur ! Oui, mais elle est belle, elle est intelligente, elle est passionnée, elle est cultivée, et puis lui, il est amoureux. Pour paraître plus jeune, il va même jusqu'à se faire couper la barbe, ce qui confine au sacrilège. Le mariage a lieu, on fait la fête. Pendant 8 jours, Hélène tarde à être enceinte. Les prières d'un moine qui s'appelle Borowski font qu'elle le devient. Vassili est aux anges, seulement écoutez bien. Dans son dos, les méchantes langues prétendent que le père serait un familier de la princesse, le prince Obolensky. Le 25 août 1530 naît un fils robuste et hurleur, prénom Ivan. Mais repensez bien à ce qu'a prédit, n'est-ce pas ? 10 jours après, il est baptisé, Vassili prodigue de l'or aux églises, ouvre les prisons, reçoit des délégations de sujets. Cependant, loin de là, le seigneur de Kazan, c'est la capitale du Tatarstan, apprend la naissance d'Ivan et il déclare au boyard. Alors un boyard, c'est un noble russe, qui lui rend visite. Il vous est né un souverain, et il a déjà 2 dents. Avec l'une, il nous dévorera, nous les Tatars, mais avec l'autre, c'est vous qu'il dévorera. C'est curieux comme ces prédictions vont se révéler exactes. Hein. 2 ans plus tard, Hélène met au monde un autre fils, Youri. Le 25 septembre 1533, Vassili se rend avec femme et enfant au couvent de la Sainte Trinité pour y recevoir la bénédiction de la Sainte de l'Archimandrite. C'est un titre aussi honorifique hein, qu'on donne en général aux supérieurs de couvent chez les orthodoxes ou alors aux curés de très grandes villes. La Sainte Trinité, ce couvent-là, se trouve à peu près à 70 km de Moscou. Puis il part à la chasse. Et soudain, il éprouve une grande souffrance à la hanche gauche, où se déclare un abcès énorme dont il ne guérira pas. Ramené à Moscou, il reçoit les saintes espèces des mains du métropolite Daniel. Et s'adressant aux boyards, il leur dit « Servez mon fils comme vous m'avez servi moi-même. » Il est minuit, le 4 décembre 1533. Le duc n'est plus. La grosse cloche du Kremlin sonne le glas. Vassili a dicté son testament. Il désigne son fils Ivan, âgé de 3 ans, comme successeur et le met jusqu'à l'âge de 15 ans sous la tutelle de sa mère et des boyards. Après avoir bien pleuré son mari, Hélène se met au travail, aidée d'une assemblée de 20 boyards distingués et d'Ivan. Elle a à l'époque un amant, qu'on suppose justement être le père d'Ivan, qui s'appelle Obolensky Telepnev. Il est jeune, il est beau et il est bête. Hélène donc veut gouverner le pays avec plus de poigne que son mari n'en avait. Sous prétexte que les deux frères de son mari pourraient bien prendre le pouvoir, elle fait jeter l'un en prison où il meurt de faim et empoisonner l'autre. Ça commence. Des princes sont soit étranglés, soit exilés pour des motifs futiles. Tout le monde aspire à un changement. Eh bien, ils sont exaucés le 3 avril 1533 parce qu'Hélène meurt subitement dans d'horribles souffrances. En fait, elle a été empoisonnée. Quel pays, hein ? Tout le monde prend le masque de la contrition, mais tout le monde est très soulagé. Le petit Ivan a 8 ans. Il est maintenant orphelin de père et de mère. En fait, la disparition de cette mère, qui ne s'est jamais beaucoup occupée de lui, ne laisse pas un grand vide. Et il reporte toute son affection sur sa nourrice, Agrafina, la sœur du favori. Celui-ci s'inquiète parce que sa situation est menacée. Eh bien, il n'a pas tort, parce que le premier qui redresse la tête, c'est le prince Chouïski. Il descend de l'illustre Alexandre Nevski. Il y a une perspective Nevski. Hein. Alexandre Nevski, c'est quelqu'un qui a vécu de 1220 à 1263. Il était prince de Novgorod, devenu un héros national, tellement il avait gagné de victoires. Et figurez-vous qu'il a été même déclaré saint par l'Église orthodoxe. Ce qu'il convoite, lui, c'est carrément le trône. Il fait jeter l'ancien favori dans un cachot. Ben oui, il meurt de faim lui aussi. Ensuite, il fait expédier dans un couvent Agrafena, c'est-à-dire la nourrice d'Ivan. Ivan s'agrippe à elle, il supplie, il pleure. Ça a été quelque chose quand même d'affreux. Hein. Peine perdue, c'était sa seule amie. Les boyards sont tellement occupés à s'entre-déchirer qu'ils ne font même pas attention à Ivan, lequel prend peur et se demande si les boyards ne vont pas à son tour, le faire mourir et son frère aussi. Nous allons faire une première pause musicale. Thank you. nous sommes sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie d'Ivan le Terrible, qui à 8 ans est orphelin et à qui on vient d'enlever sa nourrice. Et qui se demande si on ne va pas le tuer lui aussi. Donc il prend de la vie à ce moment-là une conception d'animal rapace, ardent à poursuivre ses proies. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend dans ce palais lui enseigne la cruauté et la ruse. Il dit « La réussite excuse tout ». Il a 13 ans lorsqu'il se pense ça. Il convoque alors les boyards à un banquet. Sa haine contre eux lui donne le courage de frapper un grand coup. Devant ses invités avinés, d'une voix ferme, il a 13 ans, hein, il leur reproche d'avoir abusé de son extrême jeunesse, de s'être livré au pillage, d'avoir exécuté des sentences de mort. Parmi eux, il y a de nombreux coupables, mais il se contentera de faire périr, à titre d'exemple, le plus criminel d'entre eux, le prince Andrei Chouïski. Il a joué son va-tout. Les convives, stupéfaits de cet acte d'autorité, ne bronchent pas. Tout à coup, ils ont un maître. Les gardes s'emparent d'André Chouïski, le livrent aux piqueurs, vous savez, ce sont ceux qui dirigent les chiens lors de la chasse à cour, qui, en pleine rue, le font dévorer vivant par les chiens de chasse. Cet acte de volonté reste sans lendemain, il n'a pas encore l'âge de gouverner. Chouïski meurt, les Glinski reviennent en force et ils tuent quelques adversaires. Et eux-mêmes sont bientôt chassés par les Bielski. C'est une ronde absolument infernale. Ivan a 14 ans. Sa grande passion, c'est la chasse à l'ours, au loup, au renard blanc. Alors que son frère Yuri est à moitié idiot, il ne s'intéresse, lui, qu'au jeu, à la nourriture. Et lui, après sa chasse, il aime bien se plonger dans la lecture. Il lit la Bible, la vie des saints, des chroniques. Il s'instruit souvent au hasard des rencontres sans direction bien définie. Autodidacte, il ne sait ni dominer son savoir, ni l'utiliser à bon escient. Et il écrit. Il éprouve une véritable passion pour la langue russe. Il parle bien. Sa propre voix le grise, il est verbeux, emphatique, exalté. Il voyage beaucoup pour connaître le pays. Il visite tous les couvents possibles, demandant partout des bénédictions. Dans sa traversée du pays, il refuse de voir la misère des provinces. Et quand il croit que l'on se dresse contre lui, il fait exécuter, même si les personnes sont innocentes. Nul dans son entourage n'ose protester. Alors cette attitude, bien sûr, renforce en lui l'idée que sa justice est infaillible et que son pouvoir est sacré. Maintenant, il gouverne la Russie. La Russie, c'est un État puissant, mais lui, Ivan, il rêve de l'agrandir en soumettant toutes les régions qui se trouvent autour. Moscou, c'est déjà une belle ville importante. Les nobles qui entourent le grand-duc représentent des familles aussi illustres que celles de leur maître, d'où leur répugnance quand même à se laisser gouverner par lui. Je dis grand-duc parce que pour l'instant, il n'a pas encore le titre de tsar. Le reste de la population se compose de fonctionnaires, de marchands, d'ouvriers, de paysans, dont le rôle principal est de nourrir l'armée. En principe, il n'y a pas de servage, mais ces pauvres paysans sont accablés d'impôts. Dans cette population, les marchands ont une place privilégiée. Certains même amassent des gains considérables. Ils commercent avec l'Asie centrale et l'Orient. Mais les plus grosses fortunes sont entre les mains de l'Église. Ces domaines sont immenses, dispensés d'impôts. Le peuple russe dans son ensemble est pauvre, endetté. C'est un peuple pourtant extrêmement religieux, attaché au rite plus qu'à la foi finalement. Par exemple, pour l'homme simple, il est plus grave de ne pas se signer devant une icône que de voler son prochain. Très tôt, Ivan a été attiré par les femmes. Alors il pense au mariage, il va avoir 17 ans. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il est grand, maigre, le nez en bec d'aigle, le visage allongé par une barbe brune qui tire sur le roux, les yeux petits, bleus, perçants, profondément enfoncés. C'est une physionomie aux traits durs. On dit qu'il boit trop et que l'alcool détraque ses nerfs. Alors, est-ce qu'on va trouver une princesse étrangère qui accepte de venir dans ce pays aussi violent? Le métropolite Macaire conseille à Ivan de ne pas chercher dans les cours européennes, mais plutôt de chercher une fiancée russe en réunissant toutes les jeunes filles de la noblesse. Il fait bien parce que, de toute façon, aucune des cours européennes ne voulait donner sa fille en mariage à Ivan. Alors, enchanté par cette idée, Ivan réunit les boyards et leur annonce la nouvelle. Et il ajoute qu'avant de se marier, il veut être couronné tsar. Il n'est plus grand-duc maintenant. Alors, il ne le dit pas, mais il se voit déjà le monde de demain soumis à la loi de Moscou, et ce sera grâce à lui Ivan IV. La cérémonie du sacre a lieu le 16 janvier 1547 à Moscou. L'office dure 4 heures. Face au Saint-Empire romain germanique de Charles Quint, à la France d'Henri II, à l'Angleterre d'Henri VIII, il se dresse comme le principal défenseur de la foi orthodoxe. Ça nous semble, je vais faire une petite parenthèse, ce que je vais vous raconter de son règne, ça semble vraiment hors du temps par rapport justement au règne de ceux que je viens de citer, c'est-à-dire Charles Quint, Henri II, Henri VIII, avec des cours très policés. Je vais faire ma parenthèse. Moscou devient la capitale donc de l'Église grecque, dont la liberté est menacée par les Turcs de Constantinople. Eh bien, revenons au mariage. Donc, on fait le tri, parce qu'il se présente un millier de jeunes filles. Donc, elles défilent. Ivan ne laisse rien paraître de ses sentiments. Et à la fin du défilé, il s'approche d'Anastasie Romanovna Zakharine Yuriev et lui offre un mouchoir brodé d'or et d'argent, parsemé de perles. Qui est-ce, cette personne? Eh bien, elle appartient à une famille d'ancienne noblesse. Elle est très belle, mais en parlant avec elle, Ivan se rend compte qu'elle est intelligente, douce, modeste et pieuse. Une merveille! Le mariage est célébré le 3 février 1547. Arrive le carême. Ivan et sa femme s'habillent en simples pèlerins et prennent à pied le chemin du monastère de la Sainte Trinité. Je vous rappelle que ça fait 70 km. Anastasie est très pieuse, une piété, elle, faite de charité et d'indulgence, alors que pour Ivan, son voisin, c'est Dieu. C'est incroyable. Il pense que Dieu est avec lui, donc il peut faire ce qu'il veut. Il peut même écraser cette fourmilière humaine, dit-il. Ce qui est important pour Ivan, ce ne sont pas les humains, c'est Dieu. Il tient son pouvoir de Dieu et il peut faire tout ce qu'il veut. Nous allons faire une deuxième pause musicale. We'll be right back. Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie d'Yvan le Terrible, qui vient de se marier pour la deuxième fois, et qui décide qu'il peut faire tout ce qu'il veut, parce qu'il ne tient son pouvoir que de Dieu. Dieu est son ami pour lui, hein, carrément. En fait, ce qui intéresse le tsar, c'est la chasse, les beuveries, l'amour, pas du tout l'administration qu'il laisse aux mains des Glinski. Lui se contente de sentences arbitraires. Il confond autorité et omnipotence, force de caractère et cruauté. Donc ce sont les Glinski qui font marcher le pays. Et ils oppriment le peuple. Ils monnaient leurs interventions, ils punissent ceux qui se plaignent. Les Glinski deviennent pour toute la nation le symbole de la tyrannie. N'en pouvant plus, les habitants de Pskov décident de s'adresser directement au tsar et lui envoient une délégation de 70 notables. Nous sommes le 3 juin 1547. Furieux d'être dérangé dans sa retraite, Ivan fait lier les mains des notables, leur verse de l'alcool sur la tête et y met le feu. Puis il les fait mettre nus par terre et médite un supplice. Quand tout à coup un messager arrive de Moscou pour dire que sans raison apparente, la grosse cloche du Kremlin est tombée. Atterré, Ivan se demande si ce n'est pas un présage funeste. Alors il plante là les victimes et fonce à Moscou. Il trouve la ville en flammes et elle n'a aucun moyen de lutter contre l'incendie. C'est une véritable catastrophe. On parle de 1700 victimes. Le feu finit par s'éteindre, faute d'aliments. De bouche à oreille, on répète que l'incendie n'est pas le fait du hasard, mais le résultat d'une sorcellerie. On accuse les Glinski. Ils ont recouru à des pratiques de magie noire et on trouve forcément des témoins. La foule commence à assassiner les membres de la famille Glinski, même si le tsar croit à la culpabilité des Glinski, c'est de lui et de lui seul que doivent dépendre son pays, la vie et la mort. Alors il commande à ses gardes de tirer dans le tas des manifestants et de les exécuter. L'ordre est rétabli. Ivan a eu peur. Un prêtre de Novgorod lui dit que l'incendie n'est pas dû à la magie noire, mais que c'est une punition de Dieu. Le tsar, épouvanté, donne raison au prêtre, Sylvestre, et il promet de s'amender. Il écarte les Glinski qui restent du pouvoir et il crée un conseil choisi. Cette assemblée est dominée par deux hommes, Makaire, le métropolite de Moscou, le personnage le plus cultivé de Russie, et un jeune boyard, excellent officier, Alexis Adachev. À ces deux influences heureuses s'ajoute celle de la tsarine Anastasie. Ivan ordonne alors la reconstruction de la cité et se repent publiquement de son gouvernement et promet des améliorations. Mais il garde en mémoire les offenses. Pour l'heure, il veut s'inspirer de son ancêtre, Ivan III, qui a dominé la Russie et qui lui a donné les premières lois écrites. Avec l'aide de ses conseillers, Ivan compose alors le code tsarien de 1550. Contrairement à ce qui existait, le tsar exige que les lois soient appliquées dans tout le pays. Cependant, la corruption continue. En fait, l'idée fixe d'Ivan, c'est d'unifier son pays, d'enlever aux seigneurs leurs attributions et de se faire aider par de petites gens capables. Préoccupé par la moralité de son peuple, il convoque trois conciles et il dit aux ecclésiastiques « Ne m'épargnez pas dans mes erreurs, reprochez-moi courageusement mes faiblesses et faites tonner la parole de Dieu afin que mon âme conserve sa pureté. » Ouais, nous verrons. Bien entendu, nul ne songe à lui reprocher quoi que ce soit. Et Ivan leur remet un document sur les réformes qu'il envisage pour assainir le fonctionnement de l'Église. C'est carrément une mise au pas des prêtres et des moines. Il continue en réorganisant la noblesse du pays. Même les commerçants des villes et les ouvriers sont tous catalogués et inscrits dans des corporations. Et au bas de l'échelle sociale, les paysans. La majorité d'entre eux travaillent 6 jours sur 7 pour le propriétaire du sol. Ils paient des taxes très importantes. Ils n'ont pas le droit de se déplacer ni de changer de maître. Donc le servage, bien que non proclamé, finalement s'étend insidieusement sur toute la Russie. Ces paysans sont écrasés d'impôts. Ivan IV demande à son peuple exténué 4 fois plus, je vous donne un exemple, qu'Henri VIII, le roi d'Angleterre, demandait aux siens. On peut dire que dès les premières années de son règne, Ivan affirme un esprit d'ordre et une volonté de domination qui confondent son entourage. Même ceux qui critiquent en secret sa violence, son despotisme, sa cruauté, sont forcés de convenir qu'ils ont devant eux un conducteur de peuple. Nous allons faire une troisième pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie d'Ivan le Terrible, qui est vraiment terrible. Donc là, il ne perd pas de vue ses frontières. Il a trois sujets d'inquiétude à propos des frontières. Les Suédois, les Polonais, les Tatars. Alors, il se crée une armée où, pour la première fois en Russie, le mérite éclipse la naissance. Il se met en campagne d'abord contre les Tatars en décembre 1547. On peut dire que c'est raté. Il repart en novembre 1549. On arrive devant la ville de Kazan. 60 000 Russes s'engouffrent dans une brèche et massacrent sans discernement tous les habitants. Mais ils n'arrivent pas à conquérir la forteresse centrale. La météo les oblige à la retraite, mais Ivan décide d'élever une ville forte à côté de Kazan en vue d'une prochaine action de représailles contre cette ville. Il reprend alors l'attaque de Kazan. Je vous rappelle que Kazan est musulmane. Hein. L'assaut dure, les habitants se défendent bien, mais en octobre 1552, Kazan devient carrément ruiné. Le tsar tire orgueil de cette première victoire et pourtant, pas une fois, il n'a brandi son sabre, ni épaulé une arquebuse, pas une fois il n'a visité les positions de ses soldats. Lui, il pense que son rôle, c'est prier pour gagner et paraître de temps à autre superbement vêtu. C'est tout. Il n'en est pas moins pour tous les combattants le symbole de la puissance russe. Et certains Tatars se convertissent. Alors il faut reconstruire la ville, qui est idéalement située. Donc des églises s'élèvent. Il faudrait bien des commerçants. Il n'y a pas beaucoup de Russes qui se présentent, si bien qu'Ivan se voit contraint de faire appel à tous les musulmans du pays sans plus exiger leur conversion. Il leur suffira de prêter serment au tsar et de payer les impôts. Alors des Tatars reviennent, le commerce repart avec une agglomération mi-russe, mi-mongole, mi-orthodoxe, mi-musulmane. Sur le chemin de retour à Moscou, Ivan apprend que sa femme vient de lui donner un fils. Il arrive et le 8 novembre 1552 donne un banquet gigantesque et fait appeler donc son fils. Pour signaler la prise de Kazan, le tsar fait construire sur la grande place du Kremlin la cathédrale de Basile le Bienheureux que l'on peut toujours voir. La dépense sera supportée par les habitants de Kazan à titre d'indemnité de guerre. Voilà qu'une émie de peste se déclare à Pskov, puis gagne Novgorod. Le fléau épargne Moscou, mais le tsar tombe gravement malade. Ce n'est pas la peste, mais une maladie inconnue. Il se croit perdu, il se prépare à la mort par la prière. Dans toutes les églises, on prie, il dicte son testament. Son fils Dimitri, âgé de quelques mois, lui succédera. Les boyards se disputent déjà pour savoir si on va accepter ce bébé souverain ou pas. Et tout à coup, Ivan se sent mieux, la fièvre s'apaise, il se rétablit et décide de partir en pèlerinage avec femme et fils à Kirillov. Il visite tous les monastères qu'il rencontre sur sa route. Hélas, en arrivant à Kirikov, l'enfant meurt subitement et Anastasie est malade. Ivan est complètement atterré. Le ciel que le tsar voulait remercier pour lui avoir conservé la vie a pris en échange la vie de son fils. Dimitri est enterré à Moscou en juin 1553. 9 mois plus tard, le 28 mars 1554, Anastasie met au monde un autre fils, Ivan. Le tsar se met en tête alors de commercer avec d'autres pays. Quel autre pays? Eh bien, ce sera l'Angleterre. Il signe une charte avec Marie Tudor, autorisant les sujets anglais à trafiquer librement dans toutes les villes de Russie sans payer aucun droit. Les produits importés seront des armes, du drap et du sucre. Ivan entrevoit une alliance possible entre son propre pays, vaste, puissant et barbare, et cette île lointaine, patrie des navigateurs, des savants et des marchands. Et il envisage même, si toutefois sa femme mourait, eh bien, d'épouser la reine suivante, c'est-à-dire Élisabeth Ière. Nous verrons ça la semaine prochaine.